grenade. Comment vous allez ce matin? Il y en a qu'une qui répond, les autres dorment. Alors ce matin, tu peux mettre le titre. Je vais continuer la présentation d'Alain. Vous savez, comme c'est souvent l'habitude, quand l'esprit veut parler. Alors, je vous demande pardon déjà, parce que je pense que je vais vous faire rire. Je vais vous raconter trois histoires. Il y en a deux qui vont vous faire rire. Il y en a qu'une, une qui est un petit peu plus, on va dire, difficile. Quand on est au plus bas, personne n'a jamais été au plus bas ici. Tout le monde a toujours été au plus haut. Et même aujourd'hui, on est toujours au plus haut. Qu'est-ce que Mais le Seigneur nous donne la solution. On va aller en Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Vous allez voir que c'est bizarre. J'ai l'impression de passer une semaine en arrière. Ça vous dit rien, ce verset? À Michael, ça lui dit absolument rien. C'est exactement le même verset. Et c'est bizarre, vous voyez? C'est que le Seigneur parle de deux façons différentes. Il m'a donné à cœur ces versets pour vous parler de tout à fait autre chose. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître ou en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne connaissait ces versets, bien sûr. Il y a des jours, comme je dis, où tout va mal. Tout est difficile. Des jours où il nous arrive des catastrophes. Des journées éprouvantes. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, dans cette journée-là, tout se retourne contre nous. Tout. On a beau essayer plein de choses, tout se retourne contre nous. Et je suis persuadé que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette journée-là. Tout le monde, d'ailleurs, a vécu une journée comme ça. Alors, la première histoire, c'est une dame qui doit aller prendre un avion. Et puis, elle avait une petite faim, elle rentre dans la boutique et elle va acheter des Kit Kat. Je pense que vous savez ce que c'est, les Kit Kat. C'est pas de la nourriture pour chat, c'est... des chocolats impeccables. Et elle arrive dans la zone d'embarquement, elle s'assoit, elle dépose son sac et son écharpe. Elle est tellement, je vais dire, stressée qu'elle a son écharpe autour de cou, mais elle cherche son écharpe. Et d'un seul coup, mon écharpe. Elle prend son écharpe, elle le pose sur la table et devant elle, qu'est-ce qu'elle voit? Un homme assis. Quel culot quand même! Il est en train de manger mon Kit Kat. Non mais, vous imaginez, quel culot cet homme! Elle le regarde, elle dit, mais c'est pas possible quand même. Moi, j'oserais même pas faire ça. Et puis, elle le connaît même pas. Mais comment il peut oser avoir cette façon de faire? Et au même moment, le monsieur la regarde et reprend un morceau de son Kit Kat, et il mange tranquillement. Elle le regarde. Vous savez, comme dans un western, elle le fixe, elle avance sa main, elle prend le morceau de chocolat et elle le mange, tout en le regardant dans les yeux. Et puis, elle va jusqu'au bout de son truc. Hein. Elle continue. Lui, il prend un morceau, elle le regarde à nouveau, elle prend un morceau de Kit Kat, et elle le mange. Et puis, bien sûr, devait arriver ce qui est arrivé à la fin. plus de chocolat. Le monsieur se lève un peu agacé, il va à la boutique et il revient avec un Kit Kat. Il l'ouvre, il le pose sur la table, il prend un morceau. Et là, la dame pense, mais après tout, il m'en a mangé la moitié. Ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais prendre l'autre moitié et je vais le manger. Elle le fait aussitôt, elle mange la moitié du Kit Kat. Et d'un seul coup, les haut-parleurs disent, les personnes pour tel voyage, enfin, doivent s'avancer près de la porte d'embarquement avec leur billet d'avion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ouh, mon billet d'avion, elle ouvre son sac. Son Kit Kat. Elle s'est énervée. Il y a des moments où on s'énerve pour rien. Elle a monté dans les tours pour rien du tout. C'était même pas son Kit Kat, c'était celui du monsieur. Et elle est montée dans les tours. Et souvent, on a du mal à se calmer dans ces moments-là. Parce qu'on a fait chauffer le processus, parce qu'on s'est énervé tout seul, et on a du mal à baisser. Et on sait que le monde est en train de s'éteindre. On sait qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde. On connaît les difficultés. Et on se demande souvent comment ça va finir. Bien sûr, nous chrétiens, on le sait. Vous le savez comment ça va se terminer. Et on sait l'attente du chrétien. On la connaît chacun. Et c'est peut-être ce qu'ont ressenti les apôtres dans le chapitre 14 de Jean, si vous le lisez intégralement. Parce que pour eux, le début de la semaine avait parfaitement commencé. Magnifique, magnifique début de semaine. D'une façon glorieuse, magistrale. Comment commencer votre semaine? Parce que j'espère que vous savez que la semaine commence un dimanche et pas le lundi. Comment elle a commencé le début de semaine? Ben oui, dans la joie, dans la louange. La famille de Dieu a loué le Seigneur ce matin, on a chanté ensemble. Et il n'y a pas de mal à faire ça, parce que les enfants, le peuple a fait exactement pareil quand ils ont vu Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont crié en Jean chapitre 12, verset 13? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ils ont chanté ça, ils ont loué le Seigneur. Eux l'ont fait. Mais vous pensez bien qu'il y en a d'autres derrière, qui eux, la semaine n'avaient pas bien commencé du tout. Pas bien du tout. Parce que les chefs des prêtres, les pharisiens, ils commençaient déjà à comploter contre Jésus. Ils commençaient déjà. Ils étaient au désespoir et eux, ils criaient, mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui fait une entrée triomphale pareille en Jérusalem? Et d'ailleurs, en Jean chapitre 12, verset 19, on lit, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Notre boutique, elle va cramer. Il va nous manger tous nos clients. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors, ils ont commencé à comploter. Mais vous pensez bien que Jésus n'était absolument pas venu pour établir un royaume terrestre. On le sait. Il a refusé la couronne terrestre que les hommes lui ont tendue. Il voulait un roi arrivant sur un blanc destroyé. Ils ont vu un pauvre homme arriver sur un âne. C'est vexant. Ils ont été vexés. Ils ont été contrariés. Leur rêve d'avoir un royaume juif avec Jésus s'effondrait. C'était triste. Et la foule a commencé à changer. Leurs pensées ont changé. Ils ne voulaient plus de Jésus. Ils ne comprenaient même pas pourquoi Jésus était là. Et la fin de semaine n'allait plus du tout. Mais absolument plus. Et bientôt, le diable va se servir de ses prêtres parce qu'ils vont chercher un homme qui pourra trahir et faire livrer Jésus parce que la foule était inconstante. Parce que la foule changeait constamment d'opinion. Parce qu'elle refusait Jésus comme Messie. On n'en veut pas. On ne veut pas de ce triste homme qui est arrivé sur un âne. On attendait un roi. C'est quoi cet homme? Parce que vous imaginez bien que c'est comme ça que les pharisiens ont parlé de Jésus. Ils n'ont absolument pas compris le pourquoi de la venue de Jésus. Et souvent, il y a des circonstances pareilles dans l'Église qu'on ne comprend pas. Et on voit dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, qui s'ouvre devant nous, que Jésus et les apôtres sont dans la chambre haute. Ils partagent la Pâque. Est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, à ce moment précis, Jésus savait tout. Il connaissait tout ce qui allait lui arriver dans les heures qui allaient suivre. Il savait tout. Il savait que Judas allait le trahir. Il savait la nuit qu'il allait passer et comment les apôtres seraient troublés. Parce que les apôtres seront troublés. Ils vont tellement être troublés qu'ils vont l'abandonner quand il va être livré. Jésus connaissait le chemin de croix. Il savait l'itinéraire qu'il allait emprunter pour aller au calvaire. Il a essayé de préparer les apôtres à cela. Qu'est-ce qu'il a fait alors, le Seigneur ? Il a fait peut-être ce qu'il va faire avec vous ce matin. Il les a réconfortés. Il a réconforté les apôtres. Je sais, mes amis, mes bien-aimés, que ce matin, il y a des gens qui ont besoin d'être réconfortés. Il y a des gens qui vont mal ce matin. On dit souvent les gens sont au fond du trou. Je sais qu'il y a des gens qui sont au fond du trou ce matin. Et il y a une personne en particulier qui est au fond du trou ce matin. Souvent on a un être cher qui est parti. On perd son emploi, on a des problèmes de couple. Ben oui, ça arrive. Certains ont des problèmes physiques. Certains vont aller à l'hôpital, d'autres sont seuls, d'autres sont déprimés. On éprouve tous des difficultés. Et dans ces moments-là, on se retrouve au plus bas. Et c'est là où on doit trouver ce moment de repos, comme a dit ce matin Alain. Dans ce moment le plus bas. Et Jésus, qui connaissait les cœurs troublés, a dit à un cœur troublé qu'il devait faire confiance, il devait croire, il devait avoir la foi. Et à ses apôtres, il a dit de faire attention à trois choses. La première, c'est croire en sa présence. La deuxième, c'est croire en ses promesses. Et la troisième, c'est croire en sa personne. Au verset 1, on a lu « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Ah ouais, Pascal, c'est facile. Toi, c'est facile de dire ça, mais tu connais pas le truc que je suis en train de traverser en ce moment. J'y arrive pas, je n'arrive pas à remonter. Mais ce n'est pas compliqué. La première chose que le Seigneur nous demande pour cesser d'avoir un cœur troublé, c'est de croire en sa présence. Je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il est ici au milieu de nous. Est-ce qu'on en a conscience ? Et bien plus loin, il est ici en nous, par son esprit. Qu'est-ce que Jésus veut bien vouloir dire? Est-ce qu'il dit, ben je sais que vous faites confiance à Dieu, mais maintenant faites confiance à moi? Ou alors est-ce qu'il dit, je sais que vous avez confiance en Dieu, je sais que vous avez confiance en moi. Maintenant, lorsque vous ne pourrez plus me voir, n'arrêtez pas de mettre votre confiance en moi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Même lorsque vous ne me voyez pas, même lorsque vous ne me sentez pas. Et c'est vrai, quand on a des problèmes, quand on traverse des problèmes, on ne voit que le problème. Alors que Jésus, il est toujours là à côté de nous. Puisqu'il a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est toujours plus facile de faire confiance à des choses qu'on voit, à des choses qu'on touche. C'est beaucoup plus facile. Jésus, on ne le voit pas. On est peut-être tous un peu Thomas en nous, croyez pas? On est peut-être tous un peu Thomas, on a besoin de voir, on a besoin de toucher. Rappelez-vous ce que cet homme a dit, Thomas. En Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Vous voyez, ça va? Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Viens voir ici, toi. Avance ton doigt. Et regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La Bible nous dit que Jésus va jusqu'à lui demander de mettre son doigt dans son côté et de regarder ses mains. Le verset 29, c'est pour qui? Heureux ceux qui n'ont pas cru, vu et qui ont cru. Ben c'est pour nous, mes bien-aimés. C'est pour nous. Le Seigneur, ce matin, vous dit heureux parce que vous avez cru sans me voir. C'est ce que le Seigneur vous dit ce matin. La Bible nous enseigne que tout ce qui est autour de nous est temporaire. Alain, je suis désolé. Ta magnifique voiture, comme la mienne, elle est temporaire. Tout, le bâtiment ici, un jour il va s'écrouler. On se dit, on espère le plus tard possible. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette maman qui, le mari étant à une réunion importante, va coucher ses enfants au lit. Donc elle les borde après avoir fait avec eux une prière. Donc elle prie avec ses enfants, elle les met au lit et passé la porte, elle fait comme toutes les mamans, « Ouf, je vais pouvoir enfin m'occuper de moi. » Et elle va dans la salle de bain, elle rentre sous la douche, elle prend une très bonne douche avec un excellent shampoing douche, du Monoï si vous voulez, si vous aimez ça. Elle se récure bien, ça lui fait du bien. Et elle met un peignoir, un vieux peignoir. Je pense qu'on a tous un vieux peignoir chez soi. Elle se met un vieux peignoir. Et comme ses cheveux sont mouillés, elle les entoure. Elle les entoure d'une serviette. Et puis, elle fait un truc qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, que les hommes ne comprennent pas. C'est qu'elle se tartine la figure avec de la crème hydratante. Et elle fait pour aller se coucher. Et elle passe devant la porte des enfants et elle entend un raffut incroyable. Elle ouvre la porte, elle dit « Les enfants, vous vous taisez, vous arrêtez de faire du bruit et vous dormez !» Elle ressort, elle claque la porte, elle part dans sa chambre. Les deux enfants se tournent l'un vers l'autre. C'était qui? Eh oui, mes bien-aimés, on se regarde tous les jours dans un miroir. Et on voit nos corps qui vieillissent. Même avec de la crème hydratante, ils vieillissent. Pourquoi? Parce que nos corps sont temporaires, comme tout ce qui est autour de nous. Toutes les choses qu'on peut voir vont disparaître. Il n'y a qu'une chose qui ne va pas disparaître. Ce sont les choses spirituelles qui vont durer éternellement. C'est une leçon, bien sûr, qui est difficile à entendre ce matin, que tout ce qui est autour de nous va disparaître, sauf ceux qui sont en Christ, sauf ceux qui ont cru, parce qu'ils vont devenir spirituels en Christ. Et même si on est confronté à des difficultés, même si on est confronté à des choses difficiles, on sait que Christ est avec nous tous les jours. En Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que vous croyez en ça, mes bien-aimés? Il faut croire en ça. Croire dans la présence de Christ à nos côtés, même quand c'est difficile. La deuxième chose, quand on a un cœur troublé, c'est de croire dans les promesses de Jésus. Il y a plusieurs demeures, en Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je connais ma Bible, vous connaissez aussi votre Bible. Et vous savez que Dieu a donné des promesses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il a promis à son peuple une terre où couleraient le lait et le miel. On connaît l'histoire. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, 40 ans, avant que cette promesse s'accomplisse. Pourquoi ? Parce que le peuple a désobéi. Finalement, cette promesse s'est accomplie. Elle s'est accomplie. Elle a été remplie. Dieu a promis un Messie. Il est venu. Même si c'était sur une longue période où les gens l'ont attendu et attendu et attendu. Mais le Messie est venu quand même. Il est venu. La Bible nous enseigne aussi une chose, c'est qu'il va revenir. Et peut-être ça nous semble long, peut-être on se dit, mais on aimerait que ce soit demain. Mais est-ce qu'on se dit que, ben oui, ça va se réaliser? Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on a soif de ça? Est-ce qu'on a soif du fait que, ben oui, Jésus va revenir? Et beaucoup s'impatientent. Et on lit, par exemple, en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça a été dit ce matin dans une prière. Dieu dit et il fait. Lorsque Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Frères et sœurs, ce matin, on peut faire confiance aux promesses de Dieu parce qu'elles vont se réaliser. Personne ne peut s'interposer. Ce que Dieu a prévu, son oui et oui, ce que Dieu a prévu, il va le réaliser. Et ça va s'accomplir dans nos vies, pour nos vies, pour l'Église aussi, bien sûr. Mais pour nos vies, ça va s'accomplir. Et en parlant de demeure, la Bible emploie beaucoup de mots pour décrire le ciel. Le ciel est appelé un pays. Ça indique l'immensité. L'immensité. Dans un autre, c'est la ville. Ça vous indique le nombre d'habitants, qui peut être parfois très conséquent. Je crois que Rio, c'est plusieurs millions d'habitants. Dans un autre endroit, il est appelé un royaume. Ça indique qu'il y a un roi à sa tête, quelqu'un de gracieux. Il est le roi. Mais on connaît un mot plus pratique, et je vous avoue que c'est celui que je préfère, c'est le paradis. Le paradis. Ça indique la beauté et l'utilité. L'utilité, c'est pour qui? Bien Alain. Il dort pas Alain, c'est bien. Pour nous, pour vous et moi. Le paradis, c'est là son utilité. C'est pour vous et pour moi. La beauté, c'est toute la magnificence qu'il y a à l'intérieur. La présence de Dieu, qui est une beauté surnaturelle et éternelle. C'est ce que Jésus appelle la maison de mon Père. Et c'est une façon de dire que il va nous emmener à la maison. J'ai une maison qui m'attend. Merci Seigneur. Et quand je rentre à la maison, je me mets à l'aise. C'est-à-dire que je ne suis pas habillé comme ça. Je suis, je vais dire, dans un habit plus cool. Nous avons une maison, c'est l'endroit où on peut être nous-mêmes. Où on peut enlever ses chaussures. On peut enlever sa cravate, que je n'ai pas. Mettre son vieux peignoir. La maison où on peut penser ce que l'on veut. La maison où on peut faire ce que l'on veut, la maison où on l'est toujours accepté, la maison où on l'est toujours aimé, c'est la maison. Et c'est la même maison qui nous attend chez notre Père. C'est exactement la même maison. Et quand on est dans cette maison, mes bien-aimés, on est des chrétiens. Ici, nous sommes des chrétiens. Si on va à Ikea, vous connaissez tous Ikea, le magasin Ikea, oui. Faites pas les timides, oui, c'est là où il y a 58 chambres, 58 salons, salles à manger, 49 cuisines. Enfin, c'est immense, quoi. C'est immense, c'est Ikea. Et là, on y est, à quel titre? Client. On est des clients. Tandis que dans l'Église, dans la maison de Dieu, on est résident. La différence, elle est là. Dans la maison du Père, on est résident. On a bien sûr le bon comportement. On a le comportement de chrétien. Mais on est résident. C'est-à-dire qu'on est à la maison. On peut faire ce qu'on veut. On peut y avoir nos habitudes, bien sûr, sans que cela gêne notre voisin. Mais on est à la maison, on est chez nous. La maison de notre Père. On n'est pas client de l'Église, vous êtes bien d'accord. On est résident. Si on commence à être client de l'Église, Il y a des questions à se poser. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est frères et sœurs. On est dans la même maison. Je vais reprendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse! C'est en français où c'est le mieux traduit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'a pas parlé de chambre, il a parlé de demeure, quelque chose de grand. Et est-ce que vous savez que le mot utilisé par Jésus est une coutume occidentale et qui a été reprise par nos amis mauriciens, je crois. C'est pour ça que si vous allez sur l'île Maurice, vous allez voir beaucoup de maisons où il y a encore du fer à béton qui sort. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Quand un fils se marie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fiancée, il l'amène à son père. Qu'est-ce que fait son père, à votre avis? Il va construire une pièce pour accueillir le fils et sa fiancée. Paul et Sophie auront bientôt du travail. Et avec l'autre fils qui se marie, pareil, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute encore une pièce. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que il va accueillir tout le monde. Et est-ce que vous savez que une grande partie de nous-mêmes est déjà dans la maison du Père? Est-ce que vous le savez? Parce que notre nom est écrit, c'est ce que la parole nous dit. Notre nom est écrit dans le livre de la vie. Notre nouveau nom, notre nouvelle citoyenneté, elle est là-bas, dans la maison du Père. On y est déjà. J'espère que vous avez commencé à préparer vos affaires. Dieu est là, il est là-bas. Mon sauveur est là-bas, mon héritage est là-bas. Ici, on n'a aucun héritage. Je vous l'ai dit, l'héritage qu'on a, il est temporaire. Si vous héritez d'une belle maison, vous allez hériter dans 50 ans, 60 ans, d'une belle ruine. Tandis que la maison de mon Père, elle va être, et elle est éternelle. Et vous êtes déjà dans la maison du Père. Et la promesse est remplie. La promesse est remplie parce que on va être ensemble dans la maison du Père. Et si nous voulons que notre cœur s'apaise maintenant, il faut croire en la personne de Jésus-Christ. Et c'est le troisième point. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Magnifique. C'est une merveilleuse promesse. Il dit, « Je ne suis pas venu pour vous montrer juste le chemin ou la manière d'aller vers mon Père ou écrire les instructions et comment s'y prendre pour arriver à mon Père. » Mais il dit, je vais venir vous prendre par la main et c'est moi qui vais vous emmener à la maison du Père. Et après, vous serez à la maison. Il en connaît le chemin, puisqu'il est lui-même le chemin. C'est pour ça qu'il peut venir nous chercher chacun, nous prendre par la main et dire, viens, suis-moi. Je vais t'emmener dans la maison du Père. Peut-être que ce matin, il y a quelque chose sur ton cœur qui est lourd. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Peut-être que ce matin, tu es préoccupé par quelque chose. Peut-être que tu es inquiet, anxieux. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous se sent vide à l'intérieur, comme ayant perdu la foi. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez confus. Mais Christ va venir te chercher. Même si dans tes pensées tout est bousculé, Christ va venir te chercher. Vous savez, un jour, un soldat qui revenait de la guerre du Golfe téléphone à ses parents. Il tombe sur sa mère. Ses parents étaient d'une gentillesse incroyable. Le seul problème, et qui était un problème de taille, c'était des gens mondains. Et il s'apprêtait malheureusement ce soir-là à aller à une soirée mondaine. Et il raffolait aller dans ces soirées mondaines. « Maman, dit le fils, je suis revenu de la guerre du Golfe. » Sa mère lui dit, « Ah, où es-tu? Comment ça va? Est-ce que tu seras bientôt au milieu de nous ?» Tout le monde va être content de te voir. Son fils lui dit, « Oui, maman, c'est pour ça que je t'appelle. Je vais bientôt être de retour à la maison. Mais j'ai quelque chose à te dire et quelque chose à te demander. » Il dit, « J'ai un ami avec moi qui a fait la guerre avec moi. » Sa mère lui dit, « Mais bien sûr, tes amis sont nos amis. Il n'y a aucun souci. Il peut venir. » « Mais attends, laisse-moi terminer, lui dit-il. Mon ami est défiguré. Mon ami n'a plus de bras, plus de jambes. » Alors la maman lui dit, « Oui, mais bon, tu sais, je pense qu'il y a des organismes qui pourront s'occuper de lui. Ils le feront mieux que nous. Et puis je pense que ça va quand même être une charge pour nous. Faudrait pas trop le ramener à la maison quand même. » Elle dit, « Mais écoute, je suis désolé, là, on doit s'en aller. Si tu veux, tu peux me rappeler plus tard. » Elle me dit, puis elle raccroche, elle lui dit, puis elle raccroche. La soirée se passe. Ils rentrent chez eux, bien sûr, après la soirée. Tout content de leur soirée, le téléphone sonne. Au téléphone, un policier dit « Bonsoir, madame. » Il dit « Nous avons retrouvé un jeune soldat dans une chambre d'hôtel, mort. » Il dit « Il était défiguré, il n'y avait plus de bras, il n'y avait plus de jambes. » Il dit « Et dans ses affaires, on a retrouvé des papiers. Il semble que ce soit votre fils. » L'accueil. L'accueil. Quel accueil ce fils a eu de sa mère. Quel accueil. Les organismes le feront mieux que nous. Et puis, il va être une charge. Quel accueil il a eu. Mais, mes amis, ce matin, je vais vous dire que le Seigneur vous prend tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Avec tous vos défauts, avec toutes vos qualités, il vous prend tel que vous êtes. Quand il va vous prendre par la main, il va vous prendre tel que vous êtes. Et on ne sera jamais égaré, on ne sera jamais perdu, parce que Jésus sera avec nous, c'est lui qui va nous tenir fermement la main. Alors j'aimerais vous dire que ce matin, Jésus t'attend. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas bien ce matin. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur veut te prendre par la main. Il te demande de saisir ses promesses, saisir sa présence, saisir sa personne. C'est pour ça qu'il y a eu le culte ce matin. C'est pour ça qu'on s'est réjouis ensemble de la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'on a loué le nom de Dieu. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on croit en lui. Parce qu'on sait que sans lui, nous ne sommes rien. On est une charge. Pour le monde, on est une charge. Et pour Jésus, il te prend tel que tu es. Tel que tu es. Même si dans tes pensées, tu es le pire d'entre tous. c'est lui qui juge. C'est pas les gens autour de toi. C'est pas ta conscience. C'est surtout pas tes pensées. C'est lui. Et quand il vient te chercher, il dit « Viens, allons ensemble à la maison de mon Père. » Et ce matin, il faut saisir cette victoire pour ta vie. Saisir chacune de ces choses qui ont été dites ce matin. Saisir que Jésus n'est pas celui que tu crois peut-être. Jésus, il a accepté pour toi de mourir sur la croix. Il a accepté que son côté soit percé, que le sang coule. Il a accepté d'avoir ses mains et ses pieds de transpercer, accusé à tort d'un péché qu'il n'avait jamais commis. Il a pris tes péchés sur lui. Et ce matin, il te dit, mais je les ai laissés tomber. J'ai pris ton fardeau et je l'ai laissé, ils sont dans un coin. Ce matin, je viens pour toi. Je vais te prendre par la main et aller à la maison de mon Père. Amen. Merci Seigneur pour cette présence, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes souvent oublieux. On oublie, Seigneur, que tu es là. Parfois, on vit notre vie à 100 à l'heure. Et quand il y a des catastrophes, on perd courage. On perd même notre foi. Mais Seigneur, nous avons la certitude que toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu es là, Seigneur, silencieux. Tu nous regardes nous débattre, alors que tu veux simplement nous saisir la main pour nous calmer. Ta présence nous suffit, Seigneur. Parce que lorsque tu es dans notre cœur, nous avons tout. Nous avons l'espérance, nous avons la joie, nous avons la grâce, nous avons cette douceur, Seigneur, nous avons ton amour. Seigneur, que ce matin tu puisses réchauffer des cœurs, que tu puisses relever des cœurs qui sont au plus bas ce matin. Seigneur, que ton esprit agisse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.